Chapitre 68. Je n'eus que le temps d'interposer mon bras entre l'écrou du Cerbère et ma gorge. À l'évidence, la chute ne l'avait pas privé de tous ses moyens. La douleur fulgurante me fit hurler. Déséquilibré par l'élan de l'animal, je basculai en arrière. Je sentis sa mâchoire écraser mon avant-bras à travers mon blouson. Il secouait la gueule, resserrant inexorablement sa prise. La souffrance atroce, ravivait la blessure de l'attentat qui avait dû se rouvrir. Le molosse serrait encore. Il n'allait pas tarder à attaquer la chair. Je me débattis en rampant sur le dos, étouffé par son poids. J'entendais les appels de Nathan entre deux grognements. Ma lampe était tombée dans la bagarre et je ne voyais rien, hormis nos ombres projetées sur le mur contre lequel était appuyé le cadavre. Il fallait que j'atteigne le pistolet mitrailleur. Je sentais presque ses dents pénétrer mes muscles. Je crus qu'il allait me broyer les os. L'écume aux babines, la bête s'acharnait. Le supplice était intolérable. J'étais certain d'avoir le bras en sang quand, enfin, de ma main libre, je réussis à agripper la crosse de l'arme. Le chien grognait toujours lorsque je pressai la détente. La première rafale partit. Il ne desserra pas les mâchoires, au contraire. Je tentai de me dégager en roulant sur le côté, et le canon posé contre son flanc, j'appuyai sur la gâchette. L'animal fut littéralement propulsé en arrière. Ses crocs plantés dans ma chair le retinrent une fraction de seconde, puis il lâcha. Le sang, la douleur, les râles du chien qui gisait non loin de moi, haletant de son dernier souffle. Je fermai les yeux et restai étendu sur le dos, sérieusement secoué. Là-haut, Nathan s'époumonnait. Je réussis à répondre, à voix basse d'abord, puis je retrouvai peu à peu ma respiration.
« Ça va, c'est terminé »
pus-je enfin crier.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
J'entendais la panique dans sa voix.
« Le chien n'était pas mort. Tu l'as tué ? Il vit encore. »
Je m'agenouillai près de l'animal gémissant. J'allais devoir abréger ses souffrances. Il n'y avait rien d'autre à faire pour lui. Je ramassai ma lampe et éclairai mon bras. Sous ma manche déchiquetée, du sang coulait. Je pouvais encore remuer la main, mais mon poignet était raide et douloureux. Je braquai ma lampe sur le chien, un superbe dogue, trapu et probablement assez jeune. Il avait dû m'attaquer pour protéger son maître. Sa langue pendait. Il respirait irrégulièrement. Son corps déchiqueté baignait dans une mare de sang. Il ne bougeait pas. Seuls ses yeux essayaient de me suivre. J'y voyais la terreur incrédule de l'animal souffrant qui se sait vaincu. J'approchai le canon de sa tête et tirai. La rafale résonna autour de moi dans un insupportable tonnerre. Une victime de plus, une de celles que l'on trahit tous les jours impunément, parce que l'homme se croit le maître du monde et qu'elles nous font confiance. Je caressai doucement son poil collant de sang. Aussi choquant que cela puisse paraître, j'aurais préféré abattre son maître. Lui au moins aurait su pourquoi je tirais.
« Qu'est-ce que tu fiches? Tu remontes ou tu veux que je descende ?»
Je fermai les yeux.
« Je vais remonter. Laisse-moi un moment. »
Je m'assis entre le chien et son maître. L'odeur du sang saturait l'air. Elle était là, la violence, toute la violence. Quels que soient les combats, de l'agression la plus banale à la guerre planétaire, cela finit toujours par deux êtres qui s'affrontent jusqu'à ce que l'un d'eux s'écroule. Il n'existe qu'une violence, partout la même. Elle s'était abattue au fond de cette fosse. Je me remémorais le chien m'observant dans l'ombre avant qu'il bondisse. Le vacarme des rafales, les balles transperçant sa chair, les douilles tombant sur les pierres. Mon bras me lançait, le sang coagulait entre mes doigts. Quelque chose me gênait dans le souvenir de mon combat avec ce molosse. Ma mémoire butait sur un détail, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. J'étais tourmenté par ma conscience, mais ce n'était pas ça. Non, c'était plus diffus, plus... accessoire. Je me repassais la scène encore et encore, ma lampe qui tombait, la mâchoire se refermant sur mon bras, notre chute. Cela n'avait rien à voir avec le chien, ni même avec moi. C'était autour de nous. J'avais du mal à rassembler mes idées. Mon bras me faisait souffrir. Nathan appela à nouveau.
« Tu es sûr que ça va ? Ne t'inquiète pas, laisse-moi une minute, juste une minute. »
Le faisceau de sa lampe balayait le mur du fond. Ce fut comme un déclic. Lorsque j'avais tiré la première rafale, j'avais, dans le mouvement, criblé un angle de la fosse. Les balles avaient alors ricoché sur le mur latéral, mais pas sur celui du fond. C'était le bruit de l'impact des projectiles sur cette paroi qui me posait problème. Je ramassai le pistolet mitrailleur et réarmai. Je tirai au coup par coup sur les deux murs. Sur l'un, les balles s'écrasèrent en faisant des étincelles et retombèrent. Sur l'autre, elles ne laissèrent aucune trace et pas une ne chuta par terre. Je m'approchai, tendis la main pour palper la paroi. Je finis par découvrir un trou, puis un second. Voilà pourquoi les balles n'avaient pas rebondi. Elles avaient traversé le mur. Ce n'était qu'une paroi qui masquait un vide. J'entendis un choc derrière moi et me retournai juste à temps pour voir Nathan se réceptionner. « Tu m'as fait peur. Ça devient une coutume de me suivre en me foutant les jetons. Tu ne réponds pas et j'entends des coups de feu. Mets-toi à ma place. » « Et tu n'as pas tout vu. » Je lui désignai les trous faits par les balles. « C'est une fausse paroi, du toc. Je sais pas ce que ça cache. » « Et c'est pas prudent d'y aller seul, mais tu peux compter sur moi. On jette un œil ?» Sondant la paroi, en la frappant de la poignée de nos lampes, nous cherchâmes les contours du mur factice. Il semblait être fait d'une sorte de torchis armé. Ayant conclu qu'il n'existait aucun mécanisme d'ouverture, Nathan se jeta dessus, l'épaule la première. Je l'imitai. Au premier round, le mur sortit grand vainqueur. Avec encore plus d'acharnement que moi, Nathan revint à la charge plusieurs fois, changeant de point d'impact. Un premier morceau finit par tomber, puis des plaques. D'un coup de pied lourd de tout son poids, Nathan réussit à perforer la paroi. Il nous suffit ensuite de tirer sur les pans restants en les faisant travailler pour les briser. En quelques minutes, nous pratiquâmes une brèche assez large pour nous y glisser. Le faux mur dissimulait l'entrée d'une cavité naturelle assez étroite et basse de plafond. Nos lampes se perdaient dans l'obscurité sans atteindre le fond. Le sol était de terre meuble et sèche. On y distinguait des traces de pas. Les hommes qui ont laissé ces empreintes sont partis depuis 8 siècles, soufflai-je, et on croirait qu'ils viennent juste de passer. L'écho de ma voix se perdit dans les profondeurs. Avec prudence, nous nous engageâmes plus avant. Sur les parois brutes, des supports de torches étaient placés régulièrement. Nous prîmes soin d'éviter de marcher sur les fascinantes traces de pas. Il régnait dans cette grotte une vibration que je n'avais jamais ressentie aussi puissamment. Ce lieu possédait une force rare, celle de l'urgence et du secret, celle de la mort et de l'éternité. Un peu plus loin, un escalier étroit aux longues marches basses descendait devant nous. « Ce ne sont que des linteaux de bois retenant la terre, » fit remarquer Nathan. « Pourquoi les frères ont-ils mis si peu de soin à cet ouvrage ? » « Peut-être par manque de temps. » Nous scrutions les recoins, nous méfiant de nos propres ombres. L'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Nous nous trouvions dans une partie inconnue de la cité et tout ici indiquait que, malgré l'absence de repères, nous pénétrions au cœur d'une place essentielle. 49 marches plus tard, Nathan atteignit le palier le premier. Il releva sa lampe et se figea. C'était une salle aussi vaste que le réfectoire, mais dont le plafond devait se trouver à peine à plus d'1,80 m. Elle regorgeait de très anciens coffres de toute taille. Les caisses de bois renforcées de ferrures étaient empilées, alignés contre les murs. Il y en avait des dizaines, des centaines peut-être. Sur notre droite, deux autres galeries s'ouvraient, dans lesquelles nous nous engageâmes. Elles donnaient sur deux autres salles, elles aussi remplies de coffres. « Que crois-tu que ce soit ?» demanda mon ami. Ce que nous pensions ne plus jamais retrouver et que seuls nos ennemis continuaient à chercher. Je soupçonnais l'importance de ce que nous venions de découvrir grâce à un chien mourant, mais peut-être me trompais-je. Nous revînmes dans la première salle. Devant tous les coffres soigneusement ordonnés, un plus petit avait été disposé, de toute évidence intentionnellement, tel le général de cette armée immobile. Je soulevai l'objet, assez léger au demeurant. Sa serrure était ouvragée et, sur le dessus, les ferrures enserrant les plaques de chêne formaient la croix du temple. J'introduisis dans la serrure la plus fine lame de mon couteau. Le petit coffre s'ouvrit sans trop de difficulté. Il ne contenait qu'un livre de format réduit et quelques objets dont un sceau de Montségur. Avec émotion, je soulevai le volume relié. Il tenait facilement dans ma main. Une couverture de bois habillée de peau protégeait les feuilles de parchemin. Il était clos par un fermoir métallique fait de deux croix articulées. Je dégageai délicatement la charnière et ouvris avec précaution. On dirait une sorte de cartulaire avec un inventaire du contenu des caisses. Les pages étaient couvertes de chiffres et de mots dans la calligraphie moyenâgeuse, majuscules de forme ronde, lettres ascendantes et descendantes bouclées. Suivaient des plans sommaires, des croquis d'un mécanisme complexe et détaillé. Rien n'est terminé ici parce qu'ils n'en ont pas eu le temps. Je montrai à Nathan le schéma dessiné à l'encre brune sur la page marbrée. Ce devait être la machinerie prévue pour dissimuler l'entrée. Un plancher permettant, comme un monte-charge, de descendre au niveau de cette cavité. Bloqué au-dessus du fond, il en aurait dissimulé l'accès. Les pics rétractables auraient empêché qu'un assaillant tombé dans l'oubliette ne survive pour révéler le stratagème. Une oubliette faisant également office de cage d'ascenseur. Je parcourus les pages. On aurait dit un journal composé de paragraphes datés. Malgré mes lacunes en latin, je parvenais à en saisir quelques bribes. Le texte dit que tout ce qui est devant nous aurait dû être déménagé sur l'Angleterre avec ce qui y était déjà parti. Nathan se retourna pour éclairer les caisses. Elles attendaient depuis près de 800 ans d'être embarquées vers l'Écosse, nouvelle terre d'accueil des ordres. Tu te rends compte de ce qui s'étale devant nous. Un symbole comme la terre en a peu connu, une chimère pour certains, un Graal pour d'autres, une légende de toute façon. Nous nous trouvions devant l'un des plus célèbres trésors de l'histoire de l'humanité, celui des Templiers. Nous ouvrîmes quelques caisses au hasard, découvrant des pièces d'or à profusion, des bijoux, des artefacts en provenance de toutes les civilisations de la planète, des idoles incas, des statuettes égyptiennes, des pièces d'orfèvrerie byzantine, des bronzes chinois, des figurines d'ivoire japonaise. Tout était soigneusement rangé, classé. Il y avait d'un côté les valeurs marchandes, l'argent, l'or, les pierres précieuses et les titres de propriété, et de l'autre les valeurs spirituelles, les reliques, les trésors rapportés des croisades et des campagnes. Il aurait fallu des semaines pour recenser ce que renfermaient les coffres. Nous nous trouvions dans le plus fabuleux et le plus riche musée du monde. Un musée secret, enfoui au cœur d'une montagne et que personne n'avait jamais visité. Dans ces trois salles s'étalaient d'incalculables richesses, mais bien plus encore, la plus importante et probablement la mieux préservée des collections archéologiques. Chacun des objets liés aux civilisations passées qui avaient été collectés par les frères et les chevaliers était un véritable trésor en soi. La portée spirituel et scientifique de ce que nous venions de mettre au jour était incommensurable, sans parler de la magie. Je rouvris le petit livre, en feuilletai les pages avec un profond respect. Qu'allait dire le sage quand il découvrirait tout ceci? Peut-être le ressentait-il déjà. Le journal expliquait tout. Après la croisade des Albigeois, les Templiers avaient regroupé leurs richesses dans le secret de cette cité pour les protéger du roi, de ses sbires et de l'Inquisition. L'ordre savait que la France serait une terre inhospitalière pour quelque temps. Il était prévu d'évacuer ses chefs et sa fortune vers l'Écosse, où des abbayes cisterciennes pourraient les accueillir. L'ultime phase de transfert des immenses richesses, tant archéologiques que financières, avait débuté presque en même temps que le siège du château. Jour après jour, le blocus se resserrait. Les troupes ennemies grouillaient dans les parages, rendant chaque sortie plus risquée que la précédente. Lorsque plus aucune évacuation ne fut possible, près d'une centaine d'hommes restèrent pour protéger le trésor et le cacher dans les entrailles de la cité. Ils aménagèrent sommairement ces salles, y regroupèrent et classèrent ces centaines de caisses, en sachant qu'un jour, les leurs reviendraient et reprendraient leurs biens. Le journal racontait en détail la vie extrêmement dure que ces hommes avaient menée pendant plusieurs mois. Charriant une fortune dans l'obscurité presque complète parce que l'huile et les torches manquaient. La fatigue, la faim et les informations catastrophiques qui leur parvenaient du château n'entamèrent cependant pas leur détermination. En ayant la certitude qu'ils n'en profiteraient plus jamais, ses frères avaient préparé ce trésor pour leurs descendants, se sacrifiant pour que ces richesses restent aux mains de ceux qui partageaient leur esprit. Quelques jours avant la fin, deux d'entre eux étaient morts d'épuisement. Ils furent enterrés au seuil des salles. Sans le savoir, nous étions passés près d'eux. C'était nous qui allions aujourd'hui terminer le déménagement qu'ils avaient entrepris. Deux mondes tellement proches et pourtant si différents, liés par une même foi et la détermination à la défendre. Les assaillants étaient toujours dehors, et nous étions nous aussi seuls après le départ de la plus importante partie de nos troupes. La vie ne change pas, seuls ses acteurs se renouvellent. Je m'étais assis sur une caisse, le petit livre ouvert sur les genoux. Les paragraphes s'enchaînaient, racontant chaque étape dans le but évident qu'un jour quelqu'un les lise et se souvienne. Comme je l'avais fait pour Nathan, ce frère avait pensé que tout savoir nous aiderait au moment propice. Quelques pages plus loin figurait une liste de noms, 120 exactement. Je l'ai parcouru avec l'étrange sensation de les connaître. Le paragraphe suivant était le dernier. Il était daté du 16 mars 1244, le jour de la reddition du château de Montségur, après presque un an de siège. Je réussis à comprendre les dernières phrases. Nous avons le choix entre abjurer notre foi en l'esprit ou périr par le feu. Le bûcher nous permettra d'échapper aux tortures de ces barbares hypocrites et de protéger le secret du trésor. Ce sont nos ennemis qui, en croyant nous détruire, garantiront notre victoire. Puisse l'idée de mourir pour être utile à tous nous secourir dans les moments d'horreur que nous allons affronter. Il est trop tard pour cette vie. Que nous survive la foi dans les hommes, eux seuls se sauveront, eux seuls se détruiront. Le journal s'arrêtait après ces mots. J'avais la gorge nouée. Suivait la date et une signature. Il était inhabituel qu'un frère signe, car cet acte était considéré comme vaniteux et matérialiste. Il s'appelait Benoît. Comme le nôtre, comme des milliers d'autres. Au seuil de la mort, la peur de l'oubli avait dû pousser cet homme à transgresser ce dogme. Il avait eu raison. Je savais maintenant pourquoi les noms figurant sur la liste m'étaient familiers. Il s'agissait des frères montés sur le bûcher dressé au pied de Montségur au petit matin de ce jour de la toute fin de l'hiver 1244. Les flammes qui les détruisirent marquèrent aussi la fin du catharisme. Certains observateurs rapportent qu'en montant volontairement sur les bûchers, les frères chantaient. L'on dit aussi que les flammes n'arrêtèrent pas leur chant. J'avais toujours eu des réticences à croire à cette version, même si ce sont des mercenaires n'ayant aucun intérêt à glorifier l'image de leurs victimes qui l'ont colportée. Pourtant, à la lumière de ce que nous venions d'apprendre, je crois que si j'avais été des leurs, sans avoir le courage de chanter, humblement, j'aurais eu celui de mourir.